Nos santé mentale en lutte. Et bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur votre radio préférée, Fréquence 7, dans le deuxième épisode de votre nouvelle émission, Nos santé mentale en lutte au pluriel et avec plein de couches. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thème, plein de thèmes, comme toujours, qui s'entrelacent autour de notre contexte de crise, de pandémie et plus si affinité. On va parler d'éco-anxiété, on va parler aussi et surtout d'éco-lucidité, avec toujours la même méthode dans cette émission, un temps pour s'informer, un temps pour se culturer et en filigrane pendant toute l'émission, un temps pour se réconforter avec du love, de la bienveillance et de l'écoute. Avec moi aujourd'hui, notre invité du jour, Simon. Salut Simon.
Salut Clara.
Et puis, il y a aussi toutes les autres personnes qui ne peuvent pas forcément être sur place et qui ont aussi inspiré cette émission, je pense, à Alice. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui peut sembler un peu anxiogène, mais l'idée, c'est de raconter son vécu, de parler de qu'est-ce que ça raconte pour nous, ce thème-là, comment est-ce qu'on le vit tous les jours, comment est-ce qu'on lutte aussi avec ça, comment est-ce que ça impacte notre et nos santé mentale, mais aussi comment ça éclaire, comment ça donne de l'énergie et du courage et comment ça donne envie de faire plein de choses. Donc, pour commencer, en fait, tout simplement, je ne le fais pas souvent, mais je voulais en fait, définir l'éco-anxiété. C'est un gros mot qu'on entend beaucoup ces dernières années. Alors, on entend aussi le mot solastalgie. C'est un Australien qui a été inventé ce terme-là. En tout cas, c'est l'American Psychological Association qui ont défini l'éco-anxiété comme un état d'anxiété découlant des changements climatiques. Ils le définissent comme une peur chronique d'une catastrophe environnementale imminente. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est pas une anxiété au sens de non légitimée, c'est vraiment au sens de pathologique parce que c'est une peur et donc on réagit à un danger imminent, à quelque chose de réel, quelque chose de concret. On n'est pas juste en train de flipper pour rien. Et donc je trouve que ça ancre aussi cette définition dans ce qu'on peut ressentir au quotidien quand on parle d'éco-anxiété. Et on a d'ailleurs décidé de le renommer écolucidité, et on en parlera plus tard. Comme toujours, deux parties. La première sera à propos de l'écolucidité, de la contemplation et de la guérison. Et puis dans la deuxième partie, on va tout faire péter. On va parler de politique, d'écoféminisme et d'explosion du système. Voilà le planning. Simon, comment je t'ai connue avant de te rencontrer ? Eh bien, je t'ai connue par tes photos et par tes mots aussi pour décrire ton expérience du monde vivant. J'ai face à moi deux livres photographiques magnifiques que tu m'as prêtés. Un, Conversation silencieuse au cœur de l'Ardèche sauvage, qui est donc ton ouvrage photographique plus intime, personnel, et un projet collectif sur les arbres remarquables des femmes, des hommes et des arbres en Ardèche. Et ça m'a beaucoup inspirée pour cette émission aujourd'hui. Donc pourquoi je t'ai invitée ? Parce que toi, comme nos autres copaines qui auraient pu être là aussi, Alice et d'autres, on est des écolos, mais on a une manière aussi différente de s'engager sur le terrain. Donc Simon, toi, c'est dans ton métier aussi de photographe, dans la transmission d'émotions et dans ta connexion avec la nature à l'image. Et moi, ça va être plus à travers la médiation des arts et le militantisme. Et nous tous, c'est dans notre quotidien, dans nos modes de vie avec humilité. Mais aussi car on est des éco-anxieuses et surtout des éco-lucides, des sensibles. Et alors j'aimerais revenir un petit peu sur toi, sur qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui. T'as ton enfance, tu as grandi en Ardèche. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de tout ça, nous parler de ton rapport à la nature dès le plus jeune âge?
Bon, déjà, quand tu m'as proposé de témoigner sur ce sujet, là, de l'éco-anxiété, forcément, c'est un thème qui me parle, même si je me reconnais pas forcément dans cette définition-là, mais on va en reparler. Enfin, j'ai grandi vraiment, enfin dans les bois, quoi. J'ai passé mon temps tout petit à courir sur les rochers, à me faufiler sous les ronces, dans les passages de sangliers. Ouais, j'étais un petit peu un enfant sauvage, quoi, dans une famille assez marginale. Et donc j'ai eu toujours une connexion très forte avec les animaux, les plantes, toutes sortes de lieux auxquels j'ai développé un attachement, une relation particulière. Et là, le livre que tu tiens entre les mains, du coup, Conversation silencieuse, c'est, comme tu disais, mon ouvrage le plus personnel. Et j'ai eu vraiment carte blanche de l'éditeur de Ozoni pour me livrer sur ma démarche de façon assez intime, sur mon rapport au monde. Et ça a été un exercice d'écriture que j'ai trouvé assez fort, quoi, devoir mettre des mots là-dessus. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et au moment où je travaillais sur ce livre, enfin, j'ai été témoin de plusieurs désastres, ben notamment des incendies terribles qui ont eu lieu cet été-là. Et donc, il y a toute cette teinte de l'affliction face à ce désastre qu'on retrouve aussi dans ce livre.
Oui, parce qu'il a été publié en 2022, c'est ça? Ouais, je
Oui, il me
crois.
semble,
Ouais.
oui.
Et ce livre, donc, pour expliquer, c'est un livre photographique, mais pas que. Toi qui dis avoir du mal à manier les mots, là, tu les manies très bien. Il y a aussi les mots que tu partages sur aussi ton vécu, ton ressenti, tes contemplations et ton mode d'action. Et il y a aussi 9 excursus des textes très poétiques de Solène Muller qui accompagne aussi, ainsi que des mots empruntés, puisque beaucoup de citations aussi de personnes qui t'inspirent voilà, sur ce mode de penser et de vivre. Il
Oui,
y
tout à
a
fait.
un petit texte que j'aimerais lire qui est issu de ce livre que je trouve très beau pour comprendre aussi comment tu travailles et comment tu transmets. Il est écrit: si vous ne rebroussez pas chemin, soyez prêt à vous laisser imprégner, habiter par cet air, à ajouter votre sueur à son odeur, à tendre l'oreille au vent, à sentir le murmure de l'humus à vos orteils. Vous pouvez rester en surface, en caressant les apparences, ou saisir cet appel dans l'air, suivre les scents des bêtes, vous fondre dans le torrent. Laissez-vous remuer, incorporer le poids des cailloux et le vol des oiseaux. Vous n'en sortirez pas indemne. Ces terres, ce sont les miennes, ou plutôt j'appartiens à ces montagnes dont les crêtes défilent sous mes pas. Je suis cette eau et cette roche. Je suis cet animal qui dévale en courant les pentes de la hêtraie. Je suis de l'autre côté. Tu dis même que tu es un renard un peu plus loin. Et comment c'était aussi de grandir comme ça, de grandir à la marge? Tu dis que tu arrives à l'école pas de suite. À 5 ans, tu n'étais pas de suite à l'école. Tu as fait l'école
Oui,
buissonnière.
tout à fait. Ouais, bah ma grande source de bonheur, ça a toujours été dans ces moments de communion, en fait, avec la nature. Et tout mon cheminement, toutes les difficultés auxquelles j'ai pu être confronté, c'est dans le cheminement vers les autres. Socialement, à l'école, on va dire que c'était assez compliqué. Je maîtrisais très très mal les codes. Je me suis toujours senti un petit peu à l'écart, avec des grosses difficultés pour sentir compris, quoi. Avec l'impression d'avoir des préoccupations et des choses qui m'animent tout autre. Que ce que je pouvais constater chez les autres. Et donc ça a été pas toujours évident, on va dire. Et je me suis toujours senti comment dire un peu enfin handicapé même hein, pour dans en grandissant dans ce monde-là avec beaucoup de mal à trouver ma place. Et il m'a fallu pas mal de temps de cheminement pour réussir à comprendre que enfin ces différences que je pouvais considérer comme enfin c'est aussi souvent l'image qui m'était renvoyée d'une faiblesse, d'un handicap. Finalement, c'était peut-être quelque chose de ça pouvait peut-être être associé à des choses que j'avais apportées au monde. Et
Une
donc
force.
Ça n'a pas été facile de transmuter ça, mais la photo m'a beaucoup aidé dans ce cheminement. Ça a été un moyen qui s'est imposé, on va dire, pour transmettre un petit peu de ma vision, de ma perception du monde aux autres, de tout ce qui m'est cher en fait, parce que avec les mots ça n'a pas toujours été évident, mais là je trouvais que l'image pouvait avoir peut-être ce pouvoir-là, en tout cas de transmettre cet émerveillement, ces émotions.
T'as trouvé ton langage. Et ça me parle en tout cas ce que tu racontes. Et pourtant, on a vécu dans deux milieux de mondes très différents. Enfin, moi, j'ai grandi en tout cas dans un monde vraiment à la ville. Alors bon, à la Grande Motte, une station balnéaire, certes, au cœur de la nature, puisqu'au bord de la plage, mais bon, quand même à la ville, avec un père de la campagne, dont l'imaginaire se développait plutôt sur les écrans, via les jeux vidéo, les films de science-fiction, et une mère de la ville, avec un héritage très prégnant de la guerre, de ses parents, de la peur de manquer, et donc de la surconsommation. Et puis, du coup, ma vision de la nature, je me suis rendu compte en entendant aussi ce qui avait nourri ta vision du monde aussi à toi et de la nature. C'était ma vision, vraiment, elle venait des films catastrophes, quoi. Vraiment, je me rappelle le jour d'après, tu vois. C'était vraiment une vision apocalyptique de la fin du monde que j'avais et non pas une vision réelle et concrète d'une fin du monde, d'un monde qui était déjà en train d'advenir. Et donc, j'avais vraiment cette vision distanciée, en fait. Ça m'a peut-être. Je sais pas, je suis pas sûre que ça m'ait protégée parce que du coup, après la claque, elle est assez vénère quand on grandit et qu'on prend conscience des choses et même qu'on s'y confronte aussi directement dans sa vie. Moi, je sais que voilà, les premiers rapports du GIEC que j'ai été en mesure de comprendre et de lire et de m'informer, parce que j'étais en études en sciences politiques et donc que j'étais beaucoup dans le rapport à l'information, etc. C'était une claque, une énorme claque du réel que je me suis prise et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, ça fait des décennies qu'on en parle, pourquoi personne ne fait rien, c'est comme si tout le monde était endormi et moi je venais à peine de me réveiller, j'étais là, mais pourquoi tout le monde dort? Et ça m'a vraiment, je me rappelle d'une anxiété comme ça qui monte. Et de me dire, mais aussi d'en vouloir aussi, bien sûr, à des responsables politiques, d'avoir lu des livres comme Une vérité qui dérange de Al Gore, et du coup de m'être dit, ah, mais ils sont horribles, ces gens qui empirent l'effet de serre et qui empirent le réchauffement climatique, etc., et qui amènent notre monde à sa perte. Mais j'en voulais aussi à des gens plus proches de nous, j'en voulais à mes parents de ne pas être assez informés, de ne pas faire de tri sélectif, de ne pas avoir mis de compost dans le jardin. Enfin, voilà, j'en voulais un peu aussi à toutes ces personnes qui, dans le quotidien, pourraient faire quelque chose mais le font pas, aussi peut-être et sûrement parce qu'ils n'ont pas été éduqués à ça. Et voilà, et donc j'avais vraiment cette vision d'une citadine écolo vénère, tu vois. Et du coup, moi, c'est un peu. Ça peut sembler un peu cliché parce que tu vois, quand je me suis installée en Ardèche il y a 2 ans, c'était aussi pour me réaligner avec ce rapport au monde que j'ai toujours eu au fond de moi, tu vois, cette vision de voilà, d'être en harmonie avec la nature, etc. Mais je voulais pas non plus que ce soit une vision fantasque, romantique, tu vois. Et on y reviendra plus tard dans les imaginaires de construction, de l'écologie, tout ça, c'est souvent ça aussi qui était diffusé. Donc voilà, donc je me suis posé la question de qu'est-ce que ça veut dire ce terme de l'éco-anxiété. Et ce matin, on en parlait, toi et moi, de comment est-ce qu'on peut se réapproprier ce terme, comment est-ce que finalement le fait de ne pas être adapté dans cette société malade, bah, c'est peut-être normal. Et c'est la société qui est malade, la civilisation qui nous rend malade. Et ce n'est pas forcément nous, en fait, qui sommes atteints de mots. Toi, tu me parlais de ce mot écolucidité. qui t'inspirait et d'exemples de boomers qui avaient, par exemple, sur la figure militante et activiste de Greta Thunberg, qui l'avaient pathologisée, en fait, en disant elle est éco-anxieuse, donc ça veut dire elle est malade, vous comprenez, elle est trop sensible, elle a un problème, le problème vient d'elle. Et du coup, qu'est-ce que ça t'évoque, ce terme écolucidité et cette réappropriation aussi?
Là, je peux réagir un petit peu par rapport à la définition que tu donnais. Déjà, tu parles de la peur d'une catastrophe imminente. Alors, moi, j'ai l'impression qu'en fait, la catastrophe, elle n'est pas imminente. On la vit. On est en plein dedans, en fait. C'est le problème quand on est un petit peu coupé de la Terre, de la réalité, de tous les cycles dans nos vies aseptisées, entre nos murs numérisés, c'est qu'on se rend pas compte, en fait, de cette évolution et du désastre en cours. Alors, il y a toutes sortes de chiffres, d'études qui illustrent ça, hein, avec la disparition massive des insectes. Enfin, on voit que depuis quelques décennies, il y a une accélération terrible de la destruction de la biodiversité, mais dans des proportions qui sont, quand on passe pas son temps à marcher à travers des prairies, à observer les papillons qui s'envolent, à écouter les chants d'oiseaux, on n'est pas forcément témoin et conscient de cette évolution. On voit pas forcément le bétonnage qui est en train de tout gagner comme un cancer, le développement de toutes ces métastases sur ce qui reste d'espace naturel. Pour moi, c'est tout le problème, en fait. On a un gros problème de référentiel. On peut être dans un endroit qui nous paraît préservé, à nous émerveiller de la quantité de libellules, de papillons, mais en fait, on n'a aucune idée de ce que ça pouvait être il y a seulement quelques décennies. Des nuages de papillons qui se seraient envolés au même endroit sur notre passage. On a une perte de mémoire qui est associée à la perte de rapport sensible à la Terre aussi. Et moi, je pense qu'à travers mon travail, donc je passe beaucoup de temps à la nature et j'ai l'impression des fois d'être un témoin un peu privilégié de ça, de cette évolution, même au fin fond de l'Ardèche, même dans ces endroits qu'on imagine préservés, je peux qu'être témoin de ça, quoi.
C'est marrant parce que tu nous parles de privilèges et je pense qu'il y a différents niveaux aussi de privilèges qu'on peut observer là. Moi, je me disais finalement, en entendant ton vécu de ton enfance, que tu étais privilégiée dans le sens où tu avais un cadre de vie privilégié. Enfin, je me dis aujourd'hui, j'en rêverais pour mes enfants, etc. Et en même temps, ben moi, par exemple, je pouvais avoir dans ma famille un milieu classe moyenne sup, ben, le privilège d'avoir l'accès à la connaissance. Et la possibilité aussi d'avoir du temps et de l'énergie et de l'argent pour y avoir accès. Je pense que c'est ça qui a nourri ma révolte aussi, c'est que du coup, on ait cette possibilité-là, ce privilège-là, et qu'on ne le fasse pas autour de moi. Et puis, d'autres privilèges, on en parlait aussi ensemble ce matin, toi et moi, avec cette référence mécanisme du privilège blanc. On ne va pas se mentir, quand on parle de réchauffement climatique, on est tous les deux blancs, je crois. On a aussi ce privilège blanc parce qu'on n'est pas touché de la même manière en fonction d'où on vient et en fonction d'où on se situe sur la planète. Et
Évidemment, ouais.
donc, il y a tous ces mécanismes-là aussi parfois qui font que ça fait beaucoup quand on prend conscience de tout ça. Et une fois qu'on en prend conscience aussi, bah, il n'y a pas de retour en arrière. Donc voilà, hein, l'ignorant serait soi-disant heureux, mais moi, j'y crois vraiment pas. Je pense vraiment que c'est le pouvoir de la connaissance qui nous rend véritablement heureux. Et ce qui nous affecte psychologiquement, comme tu le disais, la source du mal-être, plus que de voir finalement la nature qui s'abîme, de voir les glaciers qui fondent, etc. C'est aussi le fait d'être immergé dans une société de maillons qui détruisent la nature.
Tout à fait.
Et ça m'a beaucoup marqué quand tu me parlais de ce sentiment d'impuissance aussi et de petitesse, parce qu'on nous pousse aussi à croire qu'on est seul et qu'on est trop petit face à l'immensité de toute cette tâche. Et pourtant, il y a aussi cette question du seuil de tolérance qui est individuel. Chaque personne va avoir un seuil seuil de tolérance qui lui est propre. Et il y a des gens pour qui c'est OK, apparemment, de voir le monde s'effondrer. Et d'autres gens pour lesquels, en fait, non, ça nous révolte. Et on devient intolérant face à l'intolérance. Donc, du coup, comment tu gères ça, comment tu t'entoures aussi de gens engagés comme toi pour te donner de la force, et comment finalement en fait tu te reconnectes à des terrains plus proches du vivant et de l'action, quoi. Pendant que tu y réfléchis, si tu veux, je m'étais dit, tu vois, tu parlais de déconnexion. C'était ce dont on parlait aussi, toi et moi, c'est ces grands espaces à l'américaine, et ça me met la même rage de me dire, mais comment est-ce que tu peux encourager la préservation de la planète, la protection de la nature et de l'environnement, et pourtant ne pas avoir une vision globale des choses et une cohérence dans les actions et dans le militantisme. Comment tu vis, toi, ce manque de cohérence chez les gens?
Enfin, j'espère ne jamais me retrouver adapté, en fait, à ce système-là. À quelque part, j'ai eu une discussion l'autre fois, par exemple, avec quelqu'un qui me parlait de tout ce qu'il faisait dans sa vie, avec toutes les concessions qu'il était obligé de faire pour faire partie de ce monde-là. Et il disait que pour lui, ça lui allait et qu'il était heureux comme ça. Mais si c'est ça qu'implique le bonheur, de devoir faire ce genre de compromis, moi c'est pas l'idée que je m'en fais. Je préfère être malheureux, anxieux sous certains aspects. En fait, je pense que ce qui va avec l'amour de la vie, c'est le fait d'accepter pleinement, en fait, ces différents aspects. Je pense qu'on peut être à la fois extrêmement heureux à certains moments, comme je peux l'être dans tous ces moments de contemplation, d'émerveillement, et en même temps accepter la part de souffrance qui va avec tous les constats qu'on peut que faire en étant un petit peu lucide et en se tenant informé aussi de tout ce qui se passe. Enfin, c'est pas l'un ou l'autre, quoi. Bon, après, des fois, certains aspects qui prennent beaucoup de place, et je me retrouve des fois pendant des mois à être dans un état assez difficile, quoi, avoir énormément de mal à faire face à toutes les obligations dans ma vie. Ça arrive, il y a des phases.
Vis-à-vis de ces phases et de ces difficultés à les affronter, j'ai bien sûr toujours en appui les livres et la sélection de livres de la Bible, Courrier aux féministes, Les Lins, Les Lunes. Et il y a cet auteur avec qui on avait commencé l'émission Nos Santé Mentale en Lutte, Paul B. Preciado, qui a écrit cet ouvrage Dysphoria Mundi, Le son du monde qui s'écroule. Et je trouvais ça très intéressant parce que ça revient aussi à l'aspect pathologisant des militants et militantes écolos. Nous, ces grands fous qui jetons de la peinture verte sur les institutions politiques. Et alors, Paul B. Preciado parle dans cet ouvrage un peu complexe, parce que ça reste de la philosophie. Il parle de la pseudo-maladie de soi à la maladie du monde, dysphoria mundi. Donc il parle de la dysphorie de genre qui lui a été donnée comme étant sa pathologie, à la dysphorie du monde, cette fameuse aussi, cette dichotomie, toutes ces contradictions dont on parlait ensemble, toi et moi, tous ces paradoxes. Il y a ce passage que je voulais lire de son livre qui me parle beaucoup sur justement tous les dégâts de tout ça et aussi de l'ignorance. La glace fond, les marées montent, les forêts brûlent, les bombes lointaines et proches continuent de tomber. Notre forme d'existence sociale, plus ou moins brutale, est la guerre. Notre présent, le présent des corps des minorités subalternes, le présent des peuples autrefois colonisés, le présent des corps assignés au sexe féminin à la naissance, des corps racisés, le présent des peuples indigènes, des travailleurs pauvres, des corps désignés comme anormaux, déviants, homosexuels, trans, malades mentaux ou handicapés, le présent des enfants et des personnes âgées, le présent des animaux non humains, des minorités ethniques ou religieuses, le présent des migrants et des réfugiés, ce présent a toujours été étrange. Et notre avenir n'a jamais été autre chose qu'une série de questions sans réponse. Mais aujourd'hui, notre condition de précarité et d'expropriation, d'emprisonnement ou d'exil, d'assujettissement et d'impuissance s'est généralisée. La question n'est plus de savoir qui nous sommes, mais ce que nous allons devenir. Et ça m'a marqué parce que tout est lié et la précédente émission était sur la transidentité et la dysphorie de genre est un des grands mots qu'on utilise pour parler de transidentité. Et là, en fait, c'est aussi ça, c'est ne plus se reconnaître dans ce monde qui ne se regarde pas vraiment lui-même. Et c'est aussi de cette manière-là que j'ai envie de transmettre. Quand, par exemple, je fais faire des émissions de radio à des scolaires, j'avais fait faire une émission de radio quand je travaillais pour la Ligue de l'enseignement sur la thématique de l'écologie. Un des modes d'action et de réveil des gens, c'est ce que tu propose dans le livre Remarquable, c'est aussi de susciter l'émerveillement, la contemplation dans le temps long, la nature, l'immersion. Et puis, sur notre territoire, on a la chance aussi d'avoir tellement d'espaces comme le Sentier des Lozes, Parcours des Cinq Sens aussi, le partage des eaux avec tellement d'outils de médiation entre les arts et la nature, qu'on a pas mal d'endroits comme ça de contemplation et de médiation aussi. Voilà, on pensait aussi, toi et moi, à l'exposition Le Rucher qui avait eu lieu au théâtre de Privas l'an dernier. Il y a des artistes comme Abraham Poincheval qui font un travail aussi sur le territoire d'immersion dans des espaces naturels pour aussi sensibiliser. Voilà, cette contemplation, c'est de ne pas rester finalement dans une vision romantique de la nature, une vision où on est séparé de la nature, l'homme vs la nature, mais c'est aussi de refaire une sorte de, non pas forcément une fusion, mais de se rassembler, d'être ensemble davantage en harmonie.
À mon avis, plutôt que d'être dans une logique de recherche de solutions au sein en fait de ce système qui s'est construit sur une vision suprémaciste de colonisation du monde et de l'ensemble du monde vivant, peut-être que qu'un axe prioritaire pour faire avancer ces combats, c'est au niveau du combat culturel, de la vision, de la perception qu'on peut avoir du monde. Et pour ça, enfin moi je place une certaine foi dans tout ce qui est poétique, artistique, forcément dans cette évolution de la vision. Et y compris à destination prioritaire des enfants, parce qu'un enfant qui n'a pas été encore trop formaté à une façon d'être, on va dire utilitariste, qu'il place au-dessus de l'ensemble du vivant non humain, il a naturellement une tendance à une perception animiste, en fait.
On va clôturer la première partie. Dans la deuxième partie, on va revenir sur cette vision animiste, on va revenir sur la politique, l'écoféminisme et l'explosion du système. Pour les auditoristes, c'est plus tard et pour nous, c'est à tout de suite. Nos santé mentale en lutte.